Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Deputies say that Grant D'Amato stole hundreds of thousands of dollars from his family and sent it to a Bulgarian web model that he never even met.
Prosecutors say Grant D'Amato killed his parents and brother inside their Chuliota home back in January, but D'Amato and his lawyers maintain
he's innocent.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Après avoir perdu son emploi, Grant D'Amato se réfugie dans le monde très addictif des camgirls.
Il rencontre Sylvia, une actrice porno bulgare, et devient
complètement obsédé par elle.
En quelques mois, Grant va flamber plus de 200 000 $ pour nourrir son obsession pour Sylvia, argent qu'il va voler à ses proches et à sa famille. L'histoire tournera au drame familial.
Suivez-nous dans cette incursion obscure au cœur d'une des
plus grandes cyberdépendances.
Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir?
Ça va très bien, et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce que, encore une fois, on se rencontre pour un sujet vraiment original et obscur. Oui. Celui de Grant D'Amato, c'est un jeune homme de 30 ans, originaire de la Californie, qui l'an dernier, en fait, a développé une obsession pour une camgirl, une bulgare du nom de Sylvia, et puis il a flambé plus de 200 000 $ d'argent qu'il a volé à sa famille.
Incroyable.
Et tout ça a tourné un véritable drame. Donc, ça fait longtemps qu'on voulait parler un peu de cette cyberdépendance-là, celle de la pornographie en ligne, mais aussi des camgirls, puis on s'est dit que c'était le bon moment pour en parler.
Oui, c'était le cas parfait pour parler de ça, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fasciné, le monde des camgirls, puis de voir en fait comment cette dépendance-là, qui est plus forte que la dépendance au porno, là, on va vous en parler un peu plus tout à l'heure, peut amener justement à quelqu'un de sensé, de tout flamber son argent.
Oui, puis on veut rien vous divulgâcher, mais ça va même aller très loin, cette histoire-là. Et on va voir au fil du temps comment Grant, justement, s'est réuni dans ces chat-rooms-là autour de camgirls, puis comment il a nourri cette obsession-là, comment ça a escaladé au point où ça détruit toute sa vie et celle de sa famille. Donc, très intéressant ce sujet ce soir. On vous conseille de rester avec nous jusqu'à la fin. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on boit?
Ce soir, mon cher Émile, on boit une bière de la microbrasserie Charlevoix de Baie-Saint-Paul. Et la bière s'appelle tout simplement une Session IPA. Donc, c'est son nom. Faible en alcool, 4,2%, mais quand même une bonne amertume, 50 de IBU, puis on goûte le houblon. Hein?
Oui, c'est comme un petit moteur, mais qui a un gros turbo.
Oui, exactement. Bon comparatif. C'est une bière blonde. On nous dit qu'en bouche, on ressent une explosion d'agrumes qui provient du houblon hyper dominant de cette IPA qui est légère en alcool. On y retrouve un bel équilibre de saveur avec une amertume poivrée et florale. Elle est délicieuse.
Et cette bière-là nous a été offerte par Pierre. Merci à toi, Pierre, pour ta tournée de bière. Si vous voulez faire comme lui et encourager le show ainsi que remplir notre fridge, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com. Il y a un onglet « Tournée de bière ».
Oui, on a aussi un shout-out pour une review, 5 étoiles sur Apple Podcasts, qui nous vient de Annabelle du Canada. Elle nous dit « Je vous remercie de combler mes allers-retours au travail et de faire incessamment passer des minutes sur le tapis roulant. »
Fais attention de ne pas faire d'accident sur le tapis roulant.
Oui, s'il vous plaît, parce que tu vas voir, ça fait mal.
On veut aussi remercier nos abonnés Patreon, français, qui nous permettent justement encore une fois de financer d'une certaine façon Distorsion. Oui. On vous rappelle qu'on offre 2 forfaits, le Distordu à 2$ par mois, ça donne accès aux épisodes en avance, mais aussi à d'autres trucs, des rabais sur la boutique, accès à un serveur Discord, un shout-out dans l'épisode, et d'autres trucs vraiment cool. Mais on a aussi le forfait à 7$ qui est le forfait.
Oui, monsieur.
Et celui-là donne accès à encore plus de trucs. En fait, on fait du contenu exclusif pour ces membres-là et entre autres un épisode secret qu'on va sortir à la fin de la saison qui va être disponible seulement aux abonnés Oui Monsieur. Donc, checkez ça. Seb, je te laisse l'honneur de commencer.
Je donne du love à Sopello.
Big shout-out à toi, Cookie Kakume.
De l'amour à Yvon L.
Aussi un gros merci à Oriz, c'est grâce à toi qu'on existe.
Merci Vincent G.
Et aussi un gros shout-out à toi, Kevin, on pense à toi.
On pourrait rien faire sans toi, Manuel.
Merci à Louise B, gros shout-out.
Merci à toi, Mathieu M, beaucoup d'amour.
Un gros merci aussi à notre actionnaire, Cédric R, grâce à toi, Distorsion est là.
Émile, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans ce nouvel épisode?
Oui, mon cher Seb, mais juste avant, on doit vous dire un petit mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, celle qui enseigne aux adultes et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, mais comme pour les 30 autres programmes offerts.
Absolument, Émile. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits pour toute personne qui est passionnée d'enquête et qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. Au terme du certificat, vous allez être en mesure de mener une enquête de A à Z.
Hey, ça, c'est cool. Ce certificat est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple en criminologie, ou encore réorienter votre carrière, ou encore si vous voulez être recherchiste pour Distorsion.
Oh, bonne idée. Est-ce que ça serait une bonne formation pour, mettons, 2 podcasteurs comme toi puis moi qui s'intéressent aux enquêtes?
Oh yes, mon gars, même que j'y pense à tous les jours.
Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire au certificat en enquête et renseignement à la FEP, qui est la Faculté d'éducation permanente, au fep.umontréal.ca.
Je pense qu'on a tout dit, Seb. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans le monde obscur des Camgirls et de Grant Amato?
Oui, oui, monsieur.
C'est parti. Grant Amato est un jeune homme de 29 ans qui vit encore chez ses parents avec sa mère et son père à Chuuwalawta en Floride. Ooh. Sa famille est composée de Margaret Amato, sa mère âgée de 61 ans, de Chad Amato, son père âgé de 59 ans, et de son frère Cody, son aîné âgé de 31 ans. Ils habitent tous sous le même toit dans la résidence familiale située au 2112 Salton Circle à Chuuwalawta. Celle-ci est une très belle résidence là, avec ses petits pignons et ses grandes fenêtres. La maison est située sur un magnifique terrain avec une végétation luxuriante. Un endroit parfait pour élever des enfants. Jason Amato, le frère aîné, est le seul membre de la famille qui n'habite pas dans la résidence. La famille de Grant est plutôt aisée. Ils ont tous ce qu'ils ont besoin pour vivre et malgré qu'il approche de la trentaine et qu'il a longtemps occupé des emplois stables, Grant demeure encore chez ses parents.
C'est un phénomène assez de notre époque en ça, les tanguis, là, les gens qui restent longtemps chez leurs parents. C'est c'est plus nouveau. Depuis qu'on fait des études souvent universitaires, où le mode de vie a changé un peu. À l'époque, à nos parents, là, dès qu'on était majeur, ils voulaient qu'on quitte la maison. Mais oui, aujourd'hui, la dynamique est vraiment différente, puis ça en est la preuve.
Même, on va voir plus tard dans l'épisode que Grant n'avait pas vraiment comme plan de quitter sous peu. Là. Parce que quand même, 29 ans, approche de la trentaine. Mais bon, chacun son mode de vie. Hein. Mm. La famille semble être très unie, puis tous ces gens-là semblent mener là, une vie de famille saine et très heureuse. Chad, son père, souhaite de tout cœur que sa famille soit heureuse et confortable pour le futur. C'est pourquoi il travaille très fort, plus de 12 heures par jour pour un centre d'appel pour un CVS, la chaîne de pharmacie américaine.
Oui.
On dit aussi qu'il avait une compagnie d'informatique, sur le side Chad Amato. Il s'était auto-formé lui-même.
Ah,
puis,
oui.
Donc, en plus de ça, il gérait une petite compagnie qui faisait des sites web, je crois.
Fait que ça fait des journées chargées.
Exactement. Il veut s'assurer là, que sa famille ne manque de rien et que le futur soit bien organisé. Margaret, la mère, est aussi amatrice de chevaux. Elle a récupéré un ancien cheval de course, là, une jument qu'elle a nommée Lady, dont elle s'occupe religieusement, en visitant une étable tout près de sa résidence. Après 10 ans, Lady est malheureusement décédée, ce qui a fait beaucoup de peine à Margaret, qui a continué néanmoins à visiter l'étable pour s'occuper des autres chevaux et passer le temps là, et faire le vide.
As-tu déjà fait de l'équitation, toi?
Oui, un de mes oncles a un ranch, en fait.
Ouais.
Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'y aller et de faire un peu d'équitation, mais je peux pas dire que je suis un grand équestre.
Ah, c'est bien, ça.
Grant Amato, de son côté, est bachelier en soins infirmiers, étude qu'il a complétée en 2011. Il travaille dans des hôpitaux depuis plus de 5 ans. Il a aussi tenté de compléter un baccalauréat en anesthésie en 2015, chose qu'il n'a pas réussi. Et il a dû cesser tous les cours.
Mm.
Grant est aussi passionné de jeux vidéo. Il a d'ailleurs une chaîne Twitch et au fond de lui-même, il aimerait bien le poursuivre une carrière là, de gamer professionnel, comme plusieurs autres là, jeunes hommes et jeunes femmes intéressés par cette passion.
Oui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est une réalité. Hein. C'est,
oui.
C'est plus juste un rêve impossible.
Ben
ça,
oui.
Ça peut devenir une réalité de gagner sa vie dans le e-sports.
Oui, mais c'est un pourcentage très mince des gamers. Mais oui, c'est vrai.
C'est comme les chanteurs et les acteurs. Hein,
et comme, comme les sportifs professionnels.
Oui, exact.
Il joue entre autres à Destiny, à Dark Souls et à Elder Scrolls, la franchise, selon sa page Facebook. Il est aussi passionné d'anime et de manga japonais. Il va régulièrement faire des achats sur le site J-List, qui est spécialisé en produits japonais qui sont non disponibles en Amérique. Mm. Lui et son frère Cody sont très proches les uns des autres, voire inséparables. Ils sont allés à la même école secondaire ensemble. Ils ont aussi étudié en infirmerie au même moment. Grant s'était aussi inscrit en anesthésie, mais malheureusement pour lui, il n'a pas eu les scores nécessaires pour poursuivre les études. De plus, les deux frères avaient aussi une passion pour le Airsoft, les armes à propulsion à air, et ils faisaient partie d'une équipe compétitive de Airsoft appelée Remedy. Les deux frères comptaient aussi s'acheter des BMW pareils quand ils auraient les moyens un jour dans le futur. Ils avaient aussi des plans plus ambitieux, c'est-à-dire d'occuper la maison de leurs parents en Floride après la retraite de ceux-ci. En effet, les parents de Grant et Cody avaient acheté une maison au Tennessee pour aller y passer leurs vieux jours. Vraisemblablement, les frères Amato étaient très proches les uns des autres et plein d'amour régnait au sein de cette famille très unie. Il semblerait aussi que les deux frères Amato avaient une passion pour les vraies armes aussi, pas juste le airsoft. Donc, Cody possédait plusieurs armes et les deux allaient faire du shooting dans un shooting range.
Oui, oui.
Mais je reviens un peu à ce que tu disais, c'est quand même assez rare qu'on voit ce type de famille, du moins ici au Canada, vivre chez ses parents à 30 ans, mais en plus avoir des plans pour occuper la maison de ses parents entre frères lorsque les parents vont être à la retraite. Mais je veux dire, j'ai aucun jugement envers ça.
Non,
c'est
non,
juste plus rare, du moins dans mon cercle personnel.
Oui, oui, c'est parce que généralement dans la vie, on veut faire, on veut voler de ses propres ailes, avoir sa propre maison, son propre condo, son propre appartement.
Mais même une femme, des enfants.
Oui, c'est ça, j'allais dire, même fonder sa famille.
Oui.
Tu veux pas nécessairement vivre avec tes frères, même si tu les aimes beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est une drôle d'ambition. En fait, c'est une drôle d'ambition pour des gens de cet âge-là. C'est le genre
c'est
de
vrai.
Projet que tu fais à 15 ans, là, tu sais, quand tu sais pas trop la vie, c'est quoi, la vie d'adulte. Mais ouais, non, c'est un peu particulier. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est qu'il y a une belle fraternité entre eux.
En juin 2018, les choses vont prendre une tournure plus difficile pour Grant Amato. Déjà, Grant ne travaillait pas beaucoup. Il pouvait faire de 3 heures à 12 heures par semaine seulement, en appuyant le reste de ses besoins sur la charge de ses parents, qui payent déjà beaucoup pour la famille en général.
Oui, puis que son père, il fait au moins 12 heures par jour pour payer tout ça.
Alors que le jeune homme connaît une bonne année et une carrière qui se dessine bien dans le monde de la santé, il va commettre une importante erreur de jugement. En juin 2018, les policiers sont appelés chez Advent Health Orlando, l'hôpital où travaille Grant en tant qu'infirmier, pour signaler un important vol de doses de propofol, qui est un puissant sédatif, là, jusqu'à 10 fois plus puissant que du Xanax. C'est entre autres ce qui a tué Michael Jackson.
Ah, ok, oui, oui.
Selon eux, Grant aurait volé 8 doses en infirmerie de l'hôpital, car il croyait que certains patients ne se faisaient pas prescrire les bonnes doses. Donc, non seulement Grant a volé plusieurs doses, je pense que c'était 268 $ de la dose. Donc, en valeur, c'est plus de 2 000 $. Mais en plus, là, il les a administrés à un patient sans l'approbation d'un médecin. Donc, il les aurait administrés de son propre chef, de sa propre initiative, ce qui est une infraction importante là, dans le monde de la santé, là, qui est très dangereux aussi. Là.
Mais pourquoi?
Ben, lui, apparemment, il jugeait que les patients étaient encore dans la douleur, puis que ce que les médecins leur prescrivaient n'était pas assez puissant. Mais tu sais, après, faut respecter les ordres du médecin.
Oui,
il y a des choses que je présume que Grant n'était pas au courant, peut-être, dans les dossiers médicaux et tout ça. Là.
Oui, oui, exactement. Le médecin, il dose selon le patient. Il connaît l'historique du patient.
Ben
non,
oui,
non, c'est une drôle de décision.
Il semblait avoir des bonnes intentions, là,
oui.
Un genre de Robin des Bois de
de la douleur.
De l'urgence. Mais quand même, ça peut être très grave là, comme infraction.
Oui, puis même conséquence.
Ben oui. Malgré tout, des accusations formelles ne seront pas portées contre Grant, car il ne fut pas considéré comme quelqu'un de dangereux, là, comme quelqu'un que tu peux laisser en liberté. Il semblait pas avoir de problème rendu là. Il semblait être, reconnaître ses torts dans cette histoire-là. Il avait des bonnes intentions. Mais ceci dit, il sera congédié sur le champ là, de l'hôpital Advent Health d'Orlando, avec peu de chances de se retrouver un emploi dans le monde de la santé.
Ouais, ben c'est une grosse tâche à ton dossier.
Ben oui, c'est une faute éthique très importante. Puis ça fait, en même temps, ça faisait 5 ans, c'est pas très long comme carrière non plus dans ce domaine-là. Donc, c'était quand même encore quelqu'un qui avait des choses à prouver. Avec sa perte d'emploi et son échec là, pour ses cours en anesthésie, Grant tombe légèrement en dépression et va s'isoler de plus en plus. Il va passer ses journées, voire ses nuits entières, à jouer à des jeux vidéo, cumulant très peu de sommeil, ce qui affecte son humeur, évidemment, sa forme physique et son jugement. Son frère Cody va commencer à payer les dépenses pour Grant, incluant les 8 000 $ nécessaires à sa défense là, dans le dossier du vol de propofol. Parce qu'il a dû assurer une défense là, pendant quelques mois, là, en attendant que, justement, il laisse tomber les charges. Il va découvrir un autre type de hobby, si on peut l'appeler ainsi, auprès des camgirls. Donc, il va commencer à passer énormément de temps auprès de ces demoiselles, mais aussi de tout l'univers en ligne qui vient avec. Mais toi, Seb, je pense que tu connais bien ça, les camgirls, hein?
Je connais pas ça tant que ça, mais c'est un monde qui m'a toujours fasciné, en fait. J'ai jamais été un utilisateur parce que je trouve que ça coûte trop cher, mais l'univers m'a toujours un peu fasciné. Mais si on remonte justement à l'origine, tu sais, de où est-ce que ça... Les premières webcams, mais les camgirls qu'on a retrouvées sur le web, ça remonte à 1996. Fait que c'était quand même dans les débuts du web. C'était une étudiante au nom de Jenny Ringley qui créa un site web qui s'appelait Jennycam. Je dois vous avouer que je me souviens du nom de Jennycam, puis sûrement qu'à l'époque, surtout dans ces années-là, j'ai dû aller voir un peu, puis c'était pas le même écosystème qu'aujourd'hui. Elle était quand même innovatrice. Jenny, elle utilisait sa caméra d'ordinateur dans sa chambre et se photographiait automatiquement aux quelques minutes dans son quotidien, lorsqu'elle se brossait les dents ou pliait du linge, en plus de faire des quelques striptease à l'occasion. Mais là, je vous disais de prendre des photos automatiquement. Je vous rappelle qu'à l'époque de 1996, les webcams n'étaient pas ce qu'on avait aujourd'hui. Là. La qualité n'était pas là. Puis c'est vrai que souvent, elle ne filmait pas, elle prenait des photos. Donc, ça devait prendre moins d'espace, en fait, que d'enregistrer une vidéo de piètre qualité et la mettre sur le web. Donc, c'était un peu le processus. Au départ, tout son site était gratuit. Mais en 1998, 2 ans après, elle a décidé de créer une section payante avec du contenu exclusif. À l'époque, il n'y avait pas de chat non plus qui était disponible pour discuter avec elle. Toujours en 1998, une concurrente qui arrive sur le marché avec un site payant du nom de Amanda Cam. Ça aussi, je me suis souvenu du nom étrangement. Et elle a ouvert un site web et elle a décidé de se filmer partout autour de sa maison. Elle a investi beaucoup, elle a mis plein de caméras un peu partout et elle a été la première à créer un peu le type de camgirl, mais où ce qu'on peut chatter avec elle en échange d'argent. Donc, elle a un peu tracé la voie des camgirls. Elle passait minimum 3 heures par jour à discuter en ligne. N'en fallait pas plus pour que cette feature payante se répande partout sur le web. C'est un peu à cause de elle que tout ça est né. Autrefois, les camgirls, c'était considéré comme une petite niche dans l'énorme monde de la porno.
Oui.
Mais aujourd'hui, je lisais un des hauts dirigeants de l'industrie, il dit qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Le camming, comme il l'appelle, c'est le moteur de revenus de la porno. C'est ce qui drive le plus, parce qu'on le sait, avec les porn-up de ce monde, les revenus de la porno en ligne ont énormément diminué. Tout a changé.
Ben oui, un peu, on retrouve le même effet qu'avec YouTube. Là,
oui, ouais, YouTube ou même Napster. En tout cas, tout justement, le contenu gratuit, c'est un peu la même chose. Mais les camgirls, pour vraiment avoir, disons, du vrai contenu ou une interaction, il faut payer. Et c'est comme ça qu'ils se sont un peu repris. Juste pour vous donner des chiffres, là, j'ai des chiffres de 2016. Mais en 2016, j'ai pas été capable d'avoir de chiffres plus récents, là, mais il dit qu'il y avait 14 000 camgirls qui étaient répertoriées dans le monde. Donc aujourd'hui, ça doit être un peu plus. Puis je parle pas des camboys aussi, hein, parce que ça existe aussi. Hein. J'ai vu, c'est le même écosystème. Il doit en avoir moins, juste. J'ai l'impression qu'il y en a moins quand même. Là. Mais bref. Ça c'est une stat qui m'a surpris. Constamment, là, à chaque minute, il y a toujours 240 000 personnes qui sont en train de regarder une camgirl dans le monde. C'est beaucoup, là.
Ben oui.
Sans arrêt, c'est quand même assez impressionnant. Puis je lisais un article sur plusieurs camgirls, camboys, sur leurs revenus. Et eux, ça varie, hein. Ça varie selon comment tu travailles. Généralement, c'est entre 500 et 6000. 6000, c'est vraiment dans les tops, mais ils disent à
peu près. Mois.
Par mois, oui, exact. Ils font entre 1500 et 2000 par mois, ce qui est quand même un bon revenu.
Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui doivent faire vraiment plus.
Ah, je suis sûr que oui.
Avec les shows privés, puis
ouais,
tout ça.
Je suis sûr que oui. Même, c'est ça, dans l'article c'est un article de Vice, si ça vous intéresse. Puis je trouvais justement que les revenus n'était pas si élevé. En fait, selon moi, ils doivent pas travailler tant d'heures que ça par jour. Ça doit être que quelques heures par jour pour un revenu respectable.
Oui, oui.
J'ai répertorié aussi les 5 plus gros sites de cam qui existent sur le monde, puis je vais vous donner le trafic. Vous allez voir, c'est un phénomène qui est pas banal. Le site Live Jasmine, que je connais aussi parce que ça fait longtemps qu'il existe, lui, là, il y a 180 millions de visites par mois. Puis pour acheter, on va y revenir un peu plus tard, là, mais pour acheter des tokens, de la monnaie, parce que la monnaie d'échange ou d'interaction avec une cam girl, c'est des tokens qu'il faut acheter. Puis pour 100 tokens, sur ce site-là, c'est 11$. C'est le site le plus cher qui a été répertorié au niveau des tokens. Ensuite, t'as CamSoda, qui est un autre site que je connaissais pas, 68 millions de visites par mois. Lui, il est un petit peu moins cher, à 5$ pour 100 tokens. T'as JerkMate, 35 millions de visiteurs. T'as I'mLive, 30 millions. Et MyFreeCams.com, rappelez-vous de ce nom-là, 15 millions de visiteurs par mois. Donc, c'est beaucoup de monde, hein, quand
ben
même,
oui.
qui navigue sur ces sites-là.
Carrément, mais ça a littéralement... Ça n'a pas juste transformé le monde de la porno, ça a aussi transformé l'industrie du travail sexuel aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles ou de garçons qui vont choisir ça au lieu de la prostitution,
ben oui.
D'une certaine façon, parce que c'est beaucoup plus sécure.
Ben oui, exactement, parce que, tu sais, on le sait, à l'époque, pour ces femmes-là, les femmes ou les hommes qui vont dans l'industrie du sexe, généralement, c'est pour l'argent, là.
Oui.
C'est rare qu'il y ait d'autres motivations, et à l'époque, il fallait avoir un contact, hein, autant dans la danse que faut que tu sois là. Mais maintenant, avec le web, ça a tout changé. Donc, ces femmes-là, ils peuvent soit être des travailleuses autonomes, faire ça de chez eux avec un équipement minimum. Ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de pimp. Ils ne sont pas dans un milieu où que la drogue, la violence est présente. Donc, je disais que ça a diminué beaucoup les MTS, tout ça a eu un impact positif sur l'industrie du sexe, en fait, pas sur les travailleuses du sexe, pardon. Et ça a vraiment diminué ça à cause de ça, parce que généralement, maintenant, il y a deux formes. Hein. C'est soit, comme je vous dis, soit que tu es travailleur autonome, ou il y a des compagnies sérieuses maintenant qui ont soit des entrepôts d'endroits où ce que tu peux soit aller sur place faire tes shows, ou ils te fournissent une infrastructure pour que toi tu le fasses de chez toi et que tu n'as rien à gérer. Mais ces gens-là, c'est des hommes d'affaires, c'est pas des pimes. Fait que la dynamique n'est pas la même. Par contre, que j'ai vu qu'il y a certains, c'est pas toujours beau non plus dans ce monde. Il y a toujours de l'abus un peu partout. On retourne à notre histoire. En juin 2018, Grant se rend sur le site web MyFreeCams, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est justement un site web où il est possible de rencontrer des filles. Et vous verrez au fil du temps, contrairement à ce que le titre indique, ce site n'est pas gratuit du tout. Sur le site, il fait la rencontre d'une certaine Sylvia Ventsislavova, une Bulgare supposément modèle qui offre des shows sur le site. Sylvia a une chatroom où plusieurs hommes se réunissent pour discuter tout en observant Sylvia qui va danser et poser en tenue tenues sexy en donnant des shows érotiques. Sur le chat, les hommes peuvent payer pour lui faire faire différents trucs. On vous passe les détails, je suis sûr que vous êtes capable de figurer. On en sait très peu sur cette Sylvia. À part qu'elle semble habiter en Bulgarie et qu'elle parle anglais avec bien sûr un accent assez apparent, il s'agit d'une grande brunette, les cheveux un peu bouclés et semble être dans la trentaine selon nous, possiblement plus âgée que Grant. C'est vrai qu'elle a l'air, selon les photos, elle a l'air dans un petit peu plus de 30 ans. Grant va découvrir un monde qu'il ignorait auparavant et va commencer à prendre goût à cette relation virtuelle. Malgré le fait que Sylvia n'est pas exclusive à lui, elle partage ses shows avec plein d'autres hommes, évidemment, Grant se sent quand même un peu exclusif.
Déjà, je trouve ça particulier, le fait que tous ces gens-là, évidemment, soient pas exclusifs à elle, mais qu'ils aient quand même du plaisir entre eux. Ça me fait penser un peu aux Orbiters dans le cas de Bianca Devins.
Oui, ben oui, le fait qu'ils trippent ensemble sur la même fille, ça doit créer une genre de cohésion, j'imagine, mais moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Puis tu sais, on parle du sentiment d'exclusivité, ben, ils ont le tour, hein, ces filles-là, quand même, pour te faire sentir exclusif. Puis souvent, quand ils peuvent justement te parler en privé dans une autre chatroom, c'est là que la magie doit s'opérer, là, puis que justement, la fille doit tout faire en son pouvoir pour le garder avec lui, hein, parce que on parlait des tokens, mais elle a vu que t'en dépenses des tokens, hein, fait qu'elle va faire à peu près tout ce qu'elle peut pour te motiver à dépenser encore plus sur elle.
Puis à te rendre plus exclusif.
Oui, exact. Au niveau des frais engrangés, au prix que coûte ce hobby, si l'on peut dire, il est facile d'y passer toutes ses économies. Voici un petit exemple de ce que ça pouvait coûter de passer quelques minutes avec Sylvia en compagnie de plein d'autres hommes dans une chatroom.
Oui, et là, vous allez voir, j'ai fait quelques petits calculs pour vous, chers distordus. Vous allez voir, ça monte vite. Le tout fonctionne avec le système de jetons dont tu nous parlais, Seb, et ces jetons-là, il faut les acheter avec de l'argent réel, bien évidemment. Une minute avec Sylvia coûte 90 jetons. Il est possible d'acheter 5000 jetons pour 600$ US. Grant passait au moins 4 heures à chaque soir à regarder les shows de Sylvia. Et là, vous allez voir, le département des finances de Distorsion a effectué quelques calculs. Un jeton coûte 10 sous. Donc, 90 jetons pour une minute de show en coûte 10,80$ US. Environ 11$. Une heure de show coûte donc 648$.
Ouch!
Donc, 4 heures de show, donc un soir moyen pour Grant, ça lui coûte 2592$ US. Et là, lui, il est complètement obsédé par elle, donc il la voit à chaque jour. Donc, pour un mois, on parle d'environ 770 760$. Et si on fait le calcul, pour une année, écoutez bien ça, ça me donne, là, je vous épargne quelques sous, mais au-delà de 933 000$.
Presque un million.
Mais comment est-ce possible?
Ça n'a pas de bon sens.
Ben oui, c'est vraiment une addiction là, très sévère et très coûteuse. Là. On a sorti quelques comparatifs pour tenter de voir où se situe cette dépendance-là en rapport avec des drogues puissantes connues. Là. Par exemple, et là, juste à titre comparatif, le prix moyen de l'héroïne, là, une des drogues avec le plus haut taux de dépendance dans la rue aux États-Unis, si on en croit le Centre de soutien aux dépendances ou encore le Addiction Center, qui est un organisme américain, ça se situe entre 5 et 20$ par petit sac là, d'héroïne. Et un utilisateur très dépendant va en consommer parfois de 10 à 15 fois par jour. Donc, le montant de sa facture hebdomadaire serait entre 438$ à 1750$ par semaine pour une dépendance à l'héroïne. Donc, le coût annuel lié à cette dépendance-là peut donc aller de 22 000 à 91 000 par année, et parfois plus, tout dépendant de la région et du prix dans la rue, évidemment. Le meth, par exemple, qui est aussi très coûteuse, mais beaucoup moins que l'héroïne, peut coûter entre 12 000 et 38 000 $ par année aux utilisateurs fréquents. Et si je vous compare à la cocaïne, qui est très coûteuse, mais un peu moins addictive, peut coûter jusqu'à 170 000 par année pour un utilisateur très dépendant. Donc, c'est des gros frais, là.
Oui, oui.
Donc, vraiment, la dépendance de Grant envers Sylvia, la cam girl, est sans doute une des pires dépendances que j'ai jamais entendu parler.
Ben non, c'est fou, là. La somme d'argent, ça me fait capoter.
Ben oui, j'ai calculé d'autres affaires. Si je buvais à chaque jour là, 4 bouteilles de Veuve Clicquot, Seb, au lieu de boire de l'eau, là, ça me coûterait 105 000 $ par année. Là. Ce qui est beaucoup moins que ce que Grant, ça lui coûte. Là. Puis si je pousse encore là, mes goûts de luxe, puis que je devais m'acheter une ceinture Gucci par jour pendant un an, il m'en coûterait 197 000 $ par année. Ce qui est encore une fois beaucoup moins cher que la dépendance de Grant. Là.
Mais est-ce que ça se traite une dépendance aux ceintures Gucci?
Bonne question. Je sais pas s'il y a des groupes anonymes là-dessus. Mais bref, moi, j'en reviens juste pas, là. Tu sais, c'est même plus cher que quelqu'un qui voudrait se payer une, une escorte à chaque jour.
Ah oui, c'est débile.
Mais c'est fou, pareil, le prix qu'on est prêt à payer pour de l'attention humaine, hein, même si la personne n'est pas, pas tout près de nous. Hein. Même si échapper ses problèmes grâce à une drogue reste une motivation quand même assez importante pour toutes les addictions à des substances, ben, on dirait que c'est quand même l'attention humaine qui demeure le moteur le plus addictif là, de tout ça. Là. Ceci dit, les distordus, on vous encourage pas à essayer ni l'héroïne, ni la meth et ni la prostitution.
Mais vous pouvez y aller vers les veuves Clicquot et les ceintures Gucci. Mais plus sérieusement, c'est vrai que tout le succès des camgirls passe par la relation humaine. Hein. Je pense que c'est vraiment ça que ça, classer la porno. Parce qu'en porno, c'est une vidéo de quelqu'un d'autre. La personne n'est pas à l'autre bout pendant que tu la regardes. Et ça, c'est un peu de notre époque hein, de vivre des relations virtuelles. Puis on le sait, le cerveau les vit de la même manière. Mais je trouve ça quasiment illégal. Même si tout le monde est consentant dans tout ça, c'est quasiment de l'arnaque.
Ça va loin,
exact. Il faut pas oublier non plus que les camgirls connaissent les techniques pour s'en mettre plein les poches. Elles ne vont pas tout dévoiler d'un coup. Elles vont prendre leur temps, jouer de chantage émotionnel pour retirer le temps et faire en sorte que les hommes qui les regardent se vident les poches. Pour elles, il n'y a rien d'émotif. Elles sont là pour la business. Et si ce n'était pas payant, elles feraient sans doute autre chose de leur vie. Il y a aussi d'autres services qui ne sont pas nécessairement mentionnés dans le cas de Grant, où les filles vont donner des shows en privé aux clients pour des sommes encore plus astronomiques ou encore écrire des messages personnels à ces clients-là. Les clients vont aussi voyager. Ouais. Ces clients vont aussi leur envoyer des sommes additionnelles pour des demandes spéciales, pour porter tel type de vêtements, effectuer telle position, dire des salutations ou autres dans la vidéo. Bref, il y a toutes sortes de façons de monétiser leur contenu. Et les filles sont très au courant de ces pratiques. Les vidéos privées en vidéo chat seront importantes pour Grant, car cela lui permet de passer du temps en intimité avec Sylvia, ce qui lui permet de s'en approcher. Mais ces vidéos chat en privé sont encore plus coûteux. Grant va donc devoir user de créativité pour trouver des moyens de subvenir à sa très coûteuse dépendance à la pornographie et au sexe. En plus de ça, il commence à développer en plus des sentiments pour Sylvia, ce qui amplifie son addiction. Pour réussir à maintenir le rythme, Grant va d'abord épuiser ses propres finances personnelles et surcharger sa carte de crédit. Par la suite, une fois qu'il aura terminé d'épuiser ses finances personnelles, il va commencer à emprunter de l'argent à gauche et à droite sous prétexte que c'est pour payer ses études ou encore démarrer sa carrière de gamer professionnel sur Twitch et promouvoir sa chaîne. Toutefois, nous n'avons aucun indice comme quoi Grant souhaitait réellement démarrer une carrière de streamer. Il ne semblait pas vraiment sérieux dans cette démarche-là.
Non, ben on voyait qu'il jouait à certains jeux, mais sa chaîne Twitch semblait pas vraiment démarrer. Donc, de là à dépenser des milliers de dollars pour la promotion de sa chaîne, c'est une excuse... Je pense qu'il jouait du fait que ses parents, tout ça, devaient ignorer un peu c'était quoi Twitch et puis jouer là-dessus.
Oui, exact, toute la mécanique. Ses parents vont croire qu'il tente un nouveau départ après son congédiement de l'hôpital. Donc, ils vont le supporter en tant que bons parents. Par contre, ils vont se rendre compte que les choses ne font qu'accélérer et que les cartes de crédit familiales accumulent des charges astronomiques. On peut voir dans les documents de la cour que Grant a surchargé une carte de crédit à plus de 6 800. Il ne faut pas oublier que dans le but de séduire Sylvia, la Bulgare, Grant lui a dit qu'il gagnait un gros salaire de plus de 450 000 par année. Qu'il serait un anesthésiste bien nanti qui conduirait une M3 de BMW, mais qu'en plus de ça, il serait un gamer professionnel qui aurait gagné des bourses lors de compétitions. Cela lui permettait d'avoir une bonne réputation auprès des membres de la chatroom de Sylvia et d'avoir l'air d'un big shot auprès d'elle. De cette manière, il gagnerait encore plus de son attention. Mais le mode de vie de Grant se détériore et il s'isole de plus en plus. Il ne faut pas oublier qu'ils sont nombreux à habiter dans la maison familiale, ce qui laisse peu d'intimité à Grant. Sa routine sera celle-ci. Après le souper, dès 20h, il va s'enfermer dans sa chambre et passer au moins 4 heures dans la chatroom de Sylvia. De 20h à minuit, à chaque soir, il ne fera que ça, en dépensant de l'argent de ses proches, argent qu'il ne possède pas et qu'il n'est pas en moyen de rembourser. Son train de vie devient de plus en plus pathétique. Mais c'est clair, hein? Parce qu'à chaque jour que tu dépenses, c'est dur de rembourser ça, là. C'est des grosses sommes.
Ben oui, tu t'enfonces sans cesse.
C'est impossible à surmonter.
Puis tu restes isolé. Lui, il a aucune raison de sortir de chez lui. Donc, il reste un peu dans sa chambre à écho, lui seul, avec les autres membres de la chatroom de Sylvia. Là. Donc, c'est très... c'est normal qu'il se sente dépressif. Puis que c'est un peu abrutissant, là, ce mode de vie-là.
Oui, vraiment. Puis il doit... il n'y a plus d'argent pour sortir aussi d'une autre manière.
Ben non.
Tout passe là.
Puis aussi, s'il veut, tu sais, même s'il reprenait sa job d'infirmier, oui. Mais là, il a été congédié pour le vol de propofol, ben il pourrait même pas arriver à ce rythme de vie-là. Donc, il travaillerait encore plus, passerait moins de temps avec oui. Sylvia, puis il n'arriverait même pas avec son salaire d'infirmier à pouvoir accoter ces sommes-là.
Ben non, tu sais, on calculait tantôt presque 1 million par année.
Ben oui.
Ça, c'est en dépenses. Pour que tu aies 1 million de dépenses, il faut que tu en gagnes au moins 2. qui gagne 2 millions? Peu de gens, tu sais, c'est fou.
Vers le milieu de l'automne, là, fin novembre, début décembre, Grant va avoir envoyé plus de 200 000 $ à Sylvia via la chat room, donc en quelques mois seulement. C'est beaucoup d'argent en si peu de temps. Il va même voler plus de 60 000 $ à son frère Cody, après avoir, entre autres, vendu ses armes à feu sans lui dire. Il va aussi utiliser cet argent afin d'envoyer des cadeaux à Sylvia en Bulgarie. Il va lui envoyer des jouets sexuels, par exemple, des sous-vêtements et autres tenues afin qu'elle puisse faire des vidéos en les portant et en utilisant les jouets sexuels devant la caméra. Lorsque Chad, son père, apprend qu'autant d'argent est disparu des coffres familiaux, il est en furie.
Hey, j'espère.
On comprend. Non seulement il est frustré de la malhonnêteté de son fils, mais en plus, il n'en revient pas qu'il ait dépensé autant d'argent pour une étrangère qu'il n'a jamais rencontrée. Son père, qui est téléphoniste là, chez CVS, avait aussi un autre emploi à temps partiel en tant que programmeur web, donc de ce que je vous ai parlé. Là. Donc évidemment, il était découragé. Il va expliquer à une de ses sœurs qu'il doit réhypothéquer la maison familiale et qu'en plus, il ne pourra pas prendre sa retraite telle que prévu, là, puis aller vivre dans sa maison du Tennessee. Là. Il va devoir revoir son futur, revoir ses plans de retraite. Là. C'est un monsieur qui est quand même dans la soixantaine, donc tu commences à avoir hâte à la retraite aussi.
Ben oui, puis il travaille fort, c'est tellement triste.
Il devra donc continuer à travailler encore de longues heures par jour pour une durée indéterminée en raison là, des dépenses de Grant envers Sylvia. La famille de Grant ne sait plus quoi faire pour tenter de le sauver de ce gouffre financier, en plus de cette dépendance incontrôlable. Parce que, tu sais, il y a ce problème-là qu'il faut régler aussi.
Oui,
là.
Mais oui. Mais pourquoi qu'ils ne coupent pas les cartes de crédit ou ils ne coupent pas l'accès Internet ou qu'ils ne le mettent pas dehors? Je comprends que tu ne peux pas faire ça.
On va y venir.
OK.
Lorsque questionné par ses parents, Grant leur explique que Sylvia est véritablement sa copine et que les deux sont dans une relation bien réelle. Donc, il est un peu brainwashé, notre Grant. Là. Les paiements que reçoit Sylvia montre une histoire bien différente. On ne devrait pas devoir payer pour être dans une relation amoureuse, n'est-ce pas, les distordus? Malgré sa tristesse et sa frustration, Chad, le père, accepte de donner à Grant une seconde chance s'il accepte de ne plus contacter Sylvia. Il va donc couper les ponts pendant un certain temps et il va se faire confisquer son téléphone intelligent. Toutefois, sa mère Margaret, trop gentille, va lui permettre d'utiliser son propre téléphone pour continuer à parler à Sylvia via Twitter.
Au moins, c'est gratis, ça.
Les choses vont se calmer un peu là, au début novembre. Et Grant va même partir au Japon avec son frère Cody et un ami, un voyage le prévu depuis un bon bout de temps. Il en coûte 10 000 $ chacun pour participer à ce voyage-là. Et Cody, une fois de plus, va devoir payer pour Grant afin qu'il puisse participer au voyage. Mais tu sais, c'est son frère, ils sont un peu inséparables, donc il va le faire de bonne foi. Mais on se rappelle que Cody s'est fait voler ses armes à feu par Grant.
Ben oui.
Il s'est fait voler 60 000 $ et aussi il a payé pour les 8 000 $ de frais pour son vol de propofol.
Une chance qu'il y a un bon frère hein, quand même.
Exactement. Néanmoins, le voyage va bien se dérouler. Grant va d'ailleurs publier des vidéos là, de son voyage sur les réseaux sociaux. Il semblerait que pendant ce voyage, toutefois, il a disparu un certain temps et son frère l'a retrouvé au fond d'un commerce avec une tablette en train de communiquer avec Sylvia via le Wi-Fi là, du commerce. Là. Donc, ce voyage ne semblait vraisemblablement pas le faire changer d'idée
ou encore de le distraire de son obsession.
À son retour du Japon, son père Chad ne s'est toujours pas remis de tout cet argent perdu et du fait que son fils s'est mis autant dans le pétrin pour une fille qu'il n'a jamais rencontrée. Il va expliquer à Grant qu'il doit vraiment se prendre en main et que cette dépendance malsaine est en train de ruiner pas seulement lui, mais toute sa famille. Ce dernier prend très mal ses reproches et décide de partir quelques jours vivre chez une tante. Lors de ce séjour, il va réussir quand même à trouver une manière de combler son obsession. Il va fouiller dans le porte-monnaie de sa tante et dérober tout l'argent qui s'y trouve, en plus de prendre des photos de sa carte de crédit qu'il va stocker dans son téléphone. Elle ne se rendra pas compte de ce vol et le tout va passer légèrement inaperçu. Toutefois, peu de temps après, elle va découvrir de mystérieuses charges portées à son compte bancaire, des charges qui disparaissent en direction de la Bulgarie. Elle va tout de suite en parler à Chad, le père de Grant, qui devra gérer la situation avec Grant, qui ne s'améliore toujours pas. Cody, son frère, va accepter encore une fois de rembourser sa tante pour les dommages causés par Grant. Il a donc mis de l'argent à son frère.
Oui, pour un infirmier.
Oui.
Hein.
C'est fou, mais c'est sûr que quand tu habites chez tes parents, tes charges de base sont beaucoup minimes, fait que t'as du lousse, comme on dit, pour en mettre dans ton compte, mais quand même,
il y a
un bon fond. Chad, ainsi que son autre fils, Cody, vont fortement suggérer à Grant de s'inscrire à une thérapie de 60 jours sur la dépendance au sexe et à la pornographie au centre Cornerstone, à Fort Lauderdale. La famille est d'accord pour investir 15 000 $ dans cette thérapie. Toujours dans le but de récupérer Grant qui s'enfonce de plus en plus. On voit ici l'amour d'une famille. Famille aisée quand même. Il me semble que ça sort l'argent. Hein. Ça me fascine. Le 22 décembre 2018, Grant part finalement à sa thérapie à Fort Lauderdale. On se rappelle, la famille allonge encore un autre 15 000 $ pour tenter de récupérer Grant de sa dépendance abusive à la porno et à sa camgirl bulgare. La thérapie doit durer 60 jours, donc de s'échelonner jusqu'à la fin du mois de février 2019. Il passera donc les vacances de Noël en absence de sa famille dans le centre. Toutefois, Grant n'en peut plus et va convaincre ses parents qu'il est guéri et va quitter le centre Cornerstone et retourner chez lui le 9 janvier.
Donc, loin du 60 jours.
Le 9 janvier, oui, quand même.
Suite à cet échec supplémentaire, la famille Amato n'en peut plus et ils doivent à tout prix recadrer Grant là, une fois de plus. Ils ont déjà essayé plusieurs choses. Donc, son père Chad et son frère Cody réalisent une autre intervention en lui présentant cette fois-ci un genre de contrat écrit à la main qui résume les conditions qu'il doit remplir pour pouvoir demeurer à la maison familiale. Grant doit par la suite cocher les conditions qu'il s'engage à respecter. Et là, c'est assez fabuleux parce que cette preuve-là, le fameux contrat écrit à la main, ainsi que plein d'autres choses, c'est tout disponible sur le web grâce à la loi d'accès à l'information américaine.
Oui.
Donc, il y a vraiment des internautes qui ont fait cette demande là et qui ont posté, ils ont mis tout ça sur un genre de drive et on va y revenir un peu plus tard. Il y a beaucoup d'autres choses troublantes sur ce drive-là, mais on retrouve plein de trucs intimes et on retrouvait ça même avant le procès de Grant.
Oui,
donc,
oui.
Parfois, je suis vraiment surpris de tout ce qu'on peut accéder grâce à cette loi-là. Donc, dans ce contrat, on y retrouve au point 1. Avant de rentrer de ton séjour en thérapie, tu dois choisir un plan de vie parmi les suivants. Le premier, c'est vivre à la maison. Le deuxième, vivre en appartement, ce qui requiert de l'argent que Grant n'a pas. L'autre option, c'est vivre à l'hôtel, même scénario. Et option D, c'est joindre l'armée. Mais étant donné qu'il s'est fait arrêter auparavant à cause du vol de propofol, il y a peu de chances qu'il soit choisi pour rentrer. Mais en plus de ça, apparemment que Grant est trop maigre et est en piètre condition physique là, pour rejoindre l'armée. Donc, Grant va décliner toutes les options sauf vivre à la maison. Ce qui l'amène au point suivant du contrat, qui explique qu'il doit avouer tous ses mensonges à Sylvia. Même que les parents vont écrire eux-mêmes à Sylvia pour tout lui avouer.
Wow.
Donc, il ne fait pas un salaire de 450 000 $, il ne conduit pas une BMW, il n'est pas un gamer professionnel non plus. Donc, ils vont tout dire ça à Sylvia. Ils vont aussi lui dire que Grant a volé plus de 200 000 $ à la famille et qu'il a de gros problèmes de dépendance. Cette situation ne plaira pas du tout à Grant, ce qui va aussi le créer un froid avec Sylvia. On retrouve aussi au contrat les conditions pour demeurer à la maison, évidemment. Entre autres, Grant doit présenter un plan écrit de ses futurs projets professionnels au retour de sa thérapie. Il doit se trouver un emploi de jour dans les 60 jours suivants. Donc, pas d'emploi de soir, pardon, ou d'emploi de nuit. Il faut que ça soit de jour.
Ouais.
Il doit montrer aussi des preuves de ses applications d'emploi. L'autre point suivant, c'est aucune utilisation d'Internet après minuit. Donc, il n'y aura plus de session de 20h à minuit comme au auparavant après le souper avec Sylvia. Aussi, il y a un modem avec une capacité limitée qui va être installé dans la maison pour justement limiter le trafic, là, parce que ça doit prendre du jus, ça, des live streams.
Oui, quand même,
comme ça.
Hein, c'est comme écouter Netflix. Hein.
Au point suivant, il n'y aura plus de plan de données sur son téléphone. Donc, Grant s'est mis d'accord pour n'avoir qu'un flip phone, là, en fait, là, pour se débarrasser de son téléphone intelligent. Tous ses contrats de cellulaire sont annulés, tous ses forfaits de cloud le sont aussi annulés pour plus qu'il puisse stocker de l'information dans le cloud, et tous ses tablettes, téléphones et ordinateurs doivent être reformatés. Mais ça, c'est tous des contraintes techniques, mais qui sont tous un peu contournables.
Oui, ben oui, exact.
En plus de cela, tous les comptes bancaires de Grant sont annulés. Bref, il n'a plus le droit de toucher à de l'argent tant qu'il n'a pas de plan de vie concret. Bon, ce qui est la base ici, je pense. Là. Il est inscrit dans le document aussi là, que la famille ne supportera plus jamais Grant financièrement en raison des abus qu'il a commis. On peut y remarquer quelques détails intéressants. Et là, c'est quand même drôle qu'on retrouve ça là-dedans. Il est noté que la famille, et là je cite, « s'attend à des excuses un jour ou l'autre, mais qu'ils doutent qu'ils en auront en raison de l'absence de remords de Grant. »
Oh.
Donc c'est comme si Grant vraiment n'avait pas idée là, qu'il causait du tort à la famille. Il n'y a aucun remords, aucune émotion par rapport à ça. Mais il est aussi noté sur une ligne plus bas, là, et là c'est particulier, c'est drôle de lire ça, que Grant a choisi une étrangère physiquement absente au lieu de sa propre famille dans le contrat. Et là, Grant va rayer cette ligne du contrat.
Oh, OK.
C'est la seule ligne qui raye, parce que lui, il estime que lui et Sylvia, ben c'est de l'amour réel. Donc pour lui, ça n'a pas lieu d'être dans le contrat. Donc, le contrat se termine en indiquant que si Grant ne respecte pas les conditions ci-ci, il n'aura plus droit de vivre à la maison et se fera retirer sa clé. Le tout est signé par tous les parties présents, mais on ne sait pas trop si Grant respectera finalement les conditions nécessaires pour se reprendre en main, parce qu'on le sait, hein, il y a une grosse historique de rechute.
Et l'amour, ça n'a pas de prix. Le 9 janvier, à son retour de thérapie dans le cadre de sa tentative de réhabilitation, il envoie un message à toute la communauté de Sylvia sur sa chatroom, ce qui est pour le moins surprenant. On se serait attendu à un message privé peut-être, mais pas un message envoyé à tous. Dans cette étrange lettre, qui est très longue, Grant y révèle tous les mensonges qu'il a dit au cours des derniers mois. C'est un peu troublant de lire tout ça. Il s'excuse d'abord à Sylvia pour avoir manqué à sa confiance et pour lui avoir menti. La plupart des éléments dans son message sont en lien avec Sylvia. On y retrouve peu de remords envers tout l'argent qu'il a volé à sa famille. Il explique que son objectif était de repartir à neuf en janvier, de tout arrêter les mensonges et de reprendre le boulot dans un hôpital comme il se doit. Il va adresser des messages personnalisés pour d'autres membres du groupe aussi. C'est assez drôle de voir cette dynamique-là. Les différents hommes ne sont pas concurrents, ils se battent pas contre les autres pour attirer l'attention, c'est comme s'ils étaient tous en couple avec Sylvia.
Ouais, c'est un peu comme un genre de harem virtuel, on
dirait.
Ouais,
exact. Une polygamie contrôlée, je sais pas trop, c'est vraiment étrange. On va y voir un extrait où il mentionne « Je veux prendre part à la réalisation de ses rêves avec vous, et je sais que je peux à nouveau faire partie de sa vie. » On peut y lire plus loin. « Ne la lâchez jamais, les gars. C'est quelqu'un que vous n'oublierez jamais et ne voudrez jamais oublier. Peu importe la douleur qui vient avec. J'espère que je pourrai être avec elle à nouveau et j'espère que je pourrai faire à nouveau partie de la communauté. Je suis désolé pour ce que je lui ai fait et pour ce que je vous ai fait. » Il leur demande pitié afin d'avoir un jour une seconde chance dans cette communauté-là.
Ouais.
C'est de ce qu'on comprend, en fait, c'est qu'il est attaché beaucoup à Sylvia, mais l'attachement, il vient aussi avec la communauté, parce que j'ai l'impression que dans ces 4 heures par jour-là, il doit discuter aussi avec toute cette gang-là. Puis souvent, justement, dans le chatroom généralisé, ça doit être un peu toujours le même monde. Fait que, d'après moi, c'est devenu aussi ses amis virtuels. Pour qu'il y ait tout ce respect-là. Et c'est drôle aussi, l'acceptation du partage avec les autres, puis que les autres doivent prendre soin d'elle. C'est une drôle de dynamique.
Oui, il y a un petit côté enfantin peu, là, tu sais, de groupe d'élèves avec la maîtresse d'école. Là. Mais tu sais, il y a un peu... Tu sais, quand tu lis ces lignes, « Je veux prendre part à la réalisation de ses rêves avec vous. » Tu sais, c'est vraiment comme si tout à la gang, on allait réaliser les rêves de Sylvia, tu sais, mais je trouve qu'il romantise beaucoup cette relation-là qui est essentiellement un échange, une transaction monétaire.
Oui. Ben elle offre un service, puis eux, ils payent pour le service. Ça va pas plus loin que ça. Là. C'est comme quand on achète la pizza. Là. On paye pour la pizza, ils nous la donnent. J'implifie, mais c'est le même genre de transaction, mais eux, ils vont... On s'attache pas à notre livreur de pizza, là. Mais lui, ça va beaucoup plus loin dans tout ça, mais c'est là que ça devient omnubilant pour ces gens-là. Malgré la situation et le contrat qu'il a signé avec sa famille, Grant n'a pas cessé de communiquer avec Sylvia. Il passe maintenant par Twitter, en utilisant entre autres le téléphone de sa mère Margaret. Lorsque son père l'apprend, il devient furieux. Ben oui, il doit être fâché après sa mère qui lui a permis d'utiliser.
Ben oui.
Il brise le contrat. Le 24 janvier au soir, Chad le sermonne fermement et selon Grant, l'agrippe par le t-shirt pour le brasser. Il demande à Grant d'embarquer ses affaires et de quitter la maison. Il prendra plusieurs heures à Grant pour emballer ses choses. Il aurait quitté la maison finalement vers minuit, encore selon lui.
Donc, son père s'est vraiment décidé à le mettre dehors.
Oui. Tu sais, voir la patience de ses parents, ils ont été très patients. Mais là, tu sais, ils se sont vraiment rendus au bout de l'élastique. Moi, j'aurais été beaucoup moins patient que son père. Là,
ben oui. Là. Puis son père aussi, Chad, faisait pression parce qu'on sait que Grant a volé les cartes de crédit de sa tante
oui,
aussi.
Oui, c'est vrai. Oui.
Puis à d'autres membres de la famille. Donc, il, lui, devait gérer, faire un peu du damage control avec la famille pour s'assurer qu'il porte pas de charge contre Grant.
Ouais, c'est
donc,
vrai,
il devait s'assurer qu'il y ait des plans de remboursement pour tous les membres de la famille aussi qui se sont fait frauder là, par Grant. Là.
Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis, hein, parce que sa tante, il n'y a rien légalement qui pourrait l'empêcher de
ben
l'accuser
non.
de vol, là, parce que c'est du vol.
Ben oui.
T'sais, c'est non, c'est effectivement, c'est vraiment un bon père aussi. Là.
Le gars a 30 ans, tu sais,
oui.
29 ans. Le 25 janvier au matin, Cody ne se présente pas à l'hôpital où il travaille lui aussi comme infirmier. Ses collègues appellent les policiers pour demander là, ce qu'on appelle un welfare check, là, qui est un peu... tu peux appeler aux États-Unis les policiers, tu peux sûrement ailleurs faire ça aussi, là, mais demander juste un état de quelqu'un.
Okay.
Je crains pour telle personne. Pouvez-vous aller se présenter chez eux, juste voir si tout va bien?
Oui, oui, oui.
Un welfare check. Parce que vraiment, là, c'est pas dans les habitudes de Cody de ne pas se présenter au travail. Donc, ça lui est jamais arrivé. Sa copine aussi, la copine de Cody, parce qu'il y a une copine, elle s'inquiète car la veille, elle, Cody et Chad s'étaient textés à propos de la dispute entre Grant et son père, mais avaient finalement confirmé en fin de soirée que tout était OK. Donc, elle savait que ça avait brassé la veille dans la maison familiale. Les policiers se pointent donc au 2112 Salton Road vers 9h du matin, là, le 25 janvier. Il n'y a aucune réponse lorsqu'ils cognent aux portes. Ils activent même une sirène sur la voiture, mais pas plus de réponse. Ils remarquent que les voitures des occupants sont bien dans la cour devant, par contre, là, ce qui indique qu'il devrait au moins avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils décident d'entrer à l'intérieur de la maison de force en débloquant une serrure à l'aide d'un couteau. En entrant, ils se retrouvent devant une scène épouvantable. Et là, selon le rapport d'enquête que j'ai aussi consulté, là, qui est disponible en ligne, les policiers qui sont arrivés sur les lieux, ben, ils découvrent d'abord un homme gisant dans une mare de sang dans la cuisine. Il sera éventuellement identifié comme étant Chad Amato, le père de famille. Sur le comptoir, il y a encore là, du poulet en préparation, comme si la famille préparait le souper. Chad porte un étui là, à pistolet à l'ange. Faut pas oublier que cette famille-là là, est très friande d'armes à feu. Là. Donc, un peu tout le monde possède des armes à feu, mais quand même, Chad, le père, avait sa ceinture d'armes à feu à la taille, là, en cuisinant le souper. Là.
C'est bizarre.
Donc, est-ce qu'il s'attendait à quelque chose? Je sais pas trop. Un peu plus loin dans la maison, dans une chambre de storage, on y retrouve un autre homme, habillé en costume d'infirmier, gisant lui aussi dans une gigantesque mare de sang. Il a reçu vraisemblablement un coup de feu à l'œil. Il sera identifié comme étant Cody Amato. Les policiers poursuivent leur chemin dans la maison. Alors qu'ils arrivent dans une autre salle, un bureau, ils aperçoivent une femme assise sur une chaise devant un ordinateur, la tête sur le bureau, lui aussi maculé de sang. Il s'agit de Margaret, la mère de la famille. Elle aurait été tuée par exécution, de dos, d'une balle derrière la tête. Elle buvait là, un petit verre de vin qui a été retrouvé juste à côté là, de l'ordinateur. Absent de la maison, Grant Amato, qui réside là évidemment, ainsi que sa Honda Accord blanche 1996. Grant est donc officiellement recherché et considéré comme armé et dangereux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là?
C'est fou, hein?
Toute la famille, ou presque, est assassinée. On se rappelle que son frère aîné, Jason, lui, n'habite pas dans la maison.
Oui,
donc
vrai.
Lui est potentiellement encore en vie. Grâce aux preuves numériques, là, on a entre autres pu déterminer que le drame a dû se produire vers 16h44 la veille le 24, puisque c'est à ce moment que l'activité s'est terminée sur l'ordinateur de Margaret, parce que vraiment elle était devant une session informatique, là. Grâce aux stations routières payantes, les enquêteurs ont pu déterminer que Grant voyageait vers l'est sur la route 408 vers 10h du matin ce jour-là. Par contre, il ne retrouve pas la voiture dans les environs. C'est le 26 janvier qu'il est finalement localisé dans un hôtel Doubletree de la chaîne Hilton, près d'Orlando, en Floride. Grant a été localisé sur les vidéos de surveillance de l'hôtel et il se serait fait assigner la chambre 336. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, Grant sort de sa chambre et accepte de suivre les policiers au poste.
Lorsqu'il est interrogé par les enquêteurs du bureau du shérif de Seminole County, il nie avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de ses parents. Même lorsqu'on lui apprend, il ne semble pas surpris. Il s'en doutait, puisque la veille, il était revenu sur les lieux en voiture et avait aperçu des voitures de police et des camions de nouvelles de la télé près de la maison de ses parents. Il explique aux policiers que la veille, il s'était disputé avec son père à propos de sa relation avec Sylvia et qu'il avait quitté la maison après avoir embarqué toutes ses affaires dans sa voiture. Les enquêteurs le confrontent en lui expliquant qu'il est le dernier à avoir vu sa famille en vie et qu'il aurait un motif valable en raison de la dispute. Il avoue que oui, c'est vrai. Il aurait eu ce motif, mais qu'il n'y est pour rien. Il a quitté la maison familiale en soirée et s'est dirigé dans le parking d'un commerce où il a passé la nuit dans sa voiture. Lorsque les enquêteurs regardent certaines preuves numériques, même très basiques, l'histoire de Grant ne fait pas de sens. Il aurait effectué des recherches sur Google sur le meurtre de ses parents avant même qu'il n'ait eu vent de l'histoire. Étrangement, il n'aurait jamais tenté de les contacter.
Ouais.
Ouais, c'est drôle là, de chercher une nouvelle avant que supposément elle soit comme diffusée.
Oui.
Il semble que ça t'incrimine. Il est donc maintenu en détention et on lui porte des charges de meurtre au premier degré, donc prémédité. En Floride, il risque la peine de mort. De son côté, il nie toute implication et plaide non coupable. Ce qui complique le travail des enquêteurs, c'est qu'on ne trouve pas de preuves concrètes scientifiques qui le lient au crime. Évidemment, son ADN est partout dans la maison parce qu'il y vit dans cette maison-là. La scène a aussi été maquillée pour donner l'impression que Cody a assassiné tout le monde pour s'enlever la vie par la suite. Un pistolet sera déposé tout près du corps de Cody pour laisser croire ce scénario qui ne convainc pas du tout les enquêteurs.
Non, c'était un peu maquillé d'une manière maladroite, là, la scène de crime, là, avec justement en tentant de pointer un pistolet près de Cody, mais ça fait pas de sens, là, la thèse du meurtre-suicide dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'il y a aucune preuve scientifique dans la scène de crime, donc c'est difficile quand même, ça complique quand même le travail pas mal.
Ben oui.
Puis apparemment que même en interrogatoire, il aurait dit aux policiers, eh ben, c'est pas moi qui a fait le crime, mais par contre, mes parents, ils essaient juste de me trouver des problèmes au cours des derniers mois, puis ils me blâmaient pour tout ce qui n'allait pas dans la famille. Tu sais, donc même auprès des policiers, lorsqu'il apprenait la mort de ses parents, il les blastait quand même un peu. Là, il y avait des mauvaises choses à leur dire. Là. Il montrait aucune émotion, aucune tristesse.
Ouais, aucune empathie. Déjà là, je trouve que ça t'incrimine encore une fois, d'une certaine manière. On apprend aussi que le pouce de Cody a été nettoyé de son sang et que son téléphone intelligent est manquant de la scène de crime. On va en déduire que Grant a sans doute nettoyé le pouce de son frère pour déverrouiller son téléphone afin de pouvoir l'utiliser. Cela serait très probable, puisque les traces numériques nous montrent aussi que quelques minutes après les meurtres, Grant était dans un parking d'un commerce en utilisant le Wi-Fi pour transférer 600$ à qui? À Sylvia.
Ooh.
Non, mais tout ça va vraiment beaucoup trop loin. C'est fou pareil, là. Il tue sa famille, puis un peu après, il envoie de l'argent à la Bulgare, c'est...
Ben oui, avec le téléphone de son frère.
Son frère qui vient d'assassiner.
Tu sais, son frère avait du sang partout, sauf le pouce nettoyé, tu sais.
C'est incroyable, là, tout ce que ça peut te pousser à faire.
Ah, ça n'a aucun sens.
Son procès aura l'avantage d'aller très vite, donc de ne pas coûter trop cher aux contribuables. Car le 31 janvier 2019, il a reçu déjà son verdict. Coupable de meurtre au premier degré, il obtient la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son grand frère, Jason, qui a échappé au massacre, va offrir un témoignage poignant, expliquant au jury comment son frère est devenu un monstre après avoir nourri cette obsession pour une camgirl bulgare. Grant, de son côté, n'a montré aucune émotion et a refusé de témoigner. On n'en saura donc jamais plus sur la véritable chronologie des événements et sur ce qui s'est réellement passé dans la maison familiale ce soir-là.
Non, exact. Parce qu'en refusant de témoigner, évidemment, il refuse d'être contre-interrogé.
Non, exact. Le 12 août 2019, il y avait un appel de planifier, car la prosecution poursuivait sa démarche pour obtenir la peine de mort.
Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a la peine de mort en Floride.
Oui. Celle-ci sera rejetée ce jour-là. Il semble en effet très difficile d'obtenir la peine de mort, tout d'abord parce que l'aile des condamnés est apparemment surpeuplée, et en plus, de moins en moins de gens sont pour cette pratique. Il y a tout le côté moral et éthique. Il est très difficile, selon la couronne, d'obtenir un jury qui décidera de façon unanime d'exécuter une sentence de peine de mort. Donc, Grant Amato passera donc sa vie en prison.
Oui, peine de mort rejetée pour Grant, parce que c'est quand même un triple homicide. Hein, donc, ça serait une raison valable, je crois, pour amener la peine de mort dans cet état-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est une pratique qu'on voit de moins en moins aussi, là.
Oui, vraiment, mais la bonne chose là-dedans, c'est qu'au moins, il n'y aura jamais de libération conditionnelle, donc il se retrouvera jamais à la rue. Il ne pourra plus jamais contacter une cam girl, en fait, ou retomber dans tout ce tourbillon de dépendance-là. Puis même, je pensais à ça en prison, là, il a dû tomber cold turkey rapidement.
En manque, hein,
en
oui.
manque. Je me demande comment il a j'ai pas vraiment beaucoup d'empathie pour lui, mais je me questionnais quand même comment il a vécu son sevrage, là, que là, il avait pas le choix de faire, là. Il pouvait pas voler de l'argent à personne, voler le téléphone à quelqu'un ou quoi que ce soit. Et là, au moins, ben, il tuera plus personne non plus, là.
Puis j'ose croire que Sylvia viendra jamais le visiter, même si Grant lui a envoyé plein d'argent.
Oui, c'est ça. Il ferait le saut, hein, quand même, si elle se présentait à la prison.
Ouais. Ben, ça fait un peu le tour de la chronologie des événements, mon cher Seb. C'est quand même une histoire assez frappante qui est très représentative de notre ère, je trouve. Oui. La cyberdépendance, la dépendance à la pornographie, le fait de maintenir une relation virtuelle au point où, justement, ça compte comme étant une relation réelle. Et puis tout cela escalade en drame familial.
Ouais.
Moi, j'en revenais pas de lire tout ça, puis j'en revenais pas que c'est passé de justement un peu un hobby à un triple homicide, là, un familicide même. Là.
Ah oui, puis tout l'argent, c'est sincèrement pire que certaines histoires de drogue, de dépendance de drogue qu'on a pu lire. Là. Parce que avec la drogue, un peu comme les calculs que tu as fait, on dirait qu'on peut jamais arriver à ce niveau-là ouais. de dépense, parce qu'à un moment donné, notre corps a une limite. On dirait que contrairement à du cam girl, ben, il y a moins de limites, là, étant donné que c'est du temps qui s'écoule, puis il y a pas du sexe avec elle en tant que telle, donc c'est que ça devient comme sans limite toute la dépense. La dépense à ça, non, j'ai rarement vu des gens. On dirait que le seul parallèle des dépendances, c'est le gambling, que je verrais que c'est vrai que tu peux beaucoup dépenser de l'argent et vraiment t'enfoncer. Hein. Mais à part le gambling, on dirait qu'il y a rien d'équivalent qui peut accoter ça dans l'ère d'aujourd'hui.
Non, exactement. Puis aussi, ce qui est intéressant au niveau judiciaire de cette histoire-là, de l'histoire de Grant Amato, c'est aussi que c'est un procès sans preuves scientifiques, ouais. si on veut. C'était que des preuves circonstancielles. Donc, on n'a pas d'armes du crime, on n'a pas de témoins, mais par contre, malgré tout, on a réussi à obtenir une sentence à vie pour ce crime-là. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi qui a joué dans le rejet de la peine de mort. Mais généralement, on va exiger des preuves un peu plus scientifiques, du moins de mémoire, mais dans ce cas-ci, c'était tellement clair que c'est lui qui l'avait fait. Puis les preuves numériques étaient tellement là aussi
ouais.
qu'il n'a pas pu s'en sortir.
Non, mais avec une preuve de tout doute, maintenant, je sais qu'ils sont capables, même dans le cas de Kimberly Kessler, ils n'ont jamais retrouvé le corps et elle a été condamnée. On dirait que tant qu'ils ont des preuves circonstancielles, comme tu dis, ils peuvent condamner les gens malgré tout, mais je me demande si c'est courant des procès comme ça, ce qu'on n'a pas assez, ben, pas qu'on n'a pas assez de preuves, mais qui manque de preuves scientifiques, comme tu dis, pour arriver à condamner quelqu'un.
Ouais, bonne question.
Mais c'est la justice, au moins, dans ce cas-ci, la justice a bien fait son travail.
Ben oui, histoire très triste, cette histoire-là, mais encore une fois, qui est très, très représentative de notre ère. Et vous, les distordus, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Est-ce que vous avez, vous, des cyberdépendances? Est-ce que vous voulez vous confier? Est-ce qu'on a des cam girls parmi les distordus? On serait intéressé potentiellement à discuter avec une d'elles ou l'un d'eux,
oui,
un camboy peut-être aussi. Donc, faites-nous signe. Vous savez où nous trouver. Sinon, en after show, pour cet épisode-là, on a enregistré un after show. On va discuter un petit peu plus de cyberdépendance. Ça, c'est pour les abonnés Patreon au forfait Oui Monsieur, donc à 7$ par mois. C'est du contenu exclusif qui va être disponible tout de suite après l'épisode.
Oui.
Sinon, vous savez où nous trouver. On est partout sur Instagram, on est Distorsion Podcast. Même chose sur YouTube et Facebook. On a un groupe de discussion privée aussi sur Facebook que vous pouvez rejoindre. Oui. Et on est aussi sur Twitter, on est Distorsion Pod.
Oui.
Mon cher Émile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous?
Absolument. Cher distordu, restez loin de la meth, de l'héroïne et des camgirls nommées Sylvia.
Oh, oui.